Jason déverrouilla rapidement la porte d'entrée et jeta Mr. Smith à l'intérieur. Il posa une main sur l'épaule de Ree. « Tu rentres. »« Mais papa, tu rentres, tout de suite. Le chat veut manger. » Ree ouvrit de grands yeux, mais elle reconnut ce ton et obtempéra. Elle entra dans la maison. Jason tira la porte derrière elle et ferma à nouveau la clé avant de se tourner vers l'homme aux cheveux blancs. « Sortez de chez moi. » Le nouveau venu pencha la tête sur le côté, parut déconcerté. Jason avait rencontré le père de Sandy qu'une fois auparavant et il avait été frappé alors, comme aujourd'hui, par les yeux bleus plissés de cet homme et son sourire éclatant. « Voyons, Jason, c'est une façon d'accueillir son beau-père. » Max Black tendit une main amicale. Jason l'ignora et affirma « Sortez de chez moi, je vous fais arrêter. » Max ne bougea pas, mais son visage s'assombrit. Il tritura son chapeau, l'air hésitant. « Où est votre femme, fiston ?» demanda enfin le juge sur le ton lugubre qui convenait. « Je compte jusqu'à 5, » dit Jason. « 1, j'ai appris qu'elle a disparu depuis plus de 24 heures. J'ai vu ça aux infos, alors je me suis carapatée à l'aéroport. 2, c'est ma petite fille. Elle a les yeux de sa grand-mère, vraiment. Une magnifique petite fille. Dommage que personne n'ait pensé à m'avertir de sa naissance. Je sais que Sandra et moi avons eu nos divergences, mais je ne vois pas ce que j'ai pu faire pour mériter qu'on me cache cette charmante enfant. 3, je suis là pour donner un coup de main, fiston. Sérieusement, je suis peut-être vieux, mais j'ai pas encore dit mon dernier mot. 4. Max prit un regard plus finaud, plus curieux. Vous avez tué ma fille unique, Jason Jones? Parce que s'il s'avérait que vous avez fait du mal à ma petite Sandra, que vous avez touché à un seul de ses cheveux, 5. Jason descendit du perron. Max ne lui emboîta pas le pas, ce qui ne surprit pas Jason. D'après Sandra, son père était, comme on dit, une grosse légume dans sa région. C'était un juge très respecté, un affable gentleman du Sud. Les gens se fiaient à lui d'instinct, ce qui expliquait pourquoi personne n'était intervenu pour secourir sa fille unique, même lorsque sa mère lui versait de l'eau de Javel dans le gosier. Les journalistes virent Jason approcher et, plein d'optimisme, tendirent leur micro en redoublant de cris. « Wary ! Qui est l'homme sur votre perron ? Avez-vous quelque chose à dire au ravisseur éventuel de Madame Jones ?» Jason s'arrêta à proximité de l'agent le plus éloigné des journalistes et lui fit signe de venir. D'après son badge, l'agent s'appelait Hawks, Faucon. Parfait, c'était précisément ce qu'il lui fallait. L'agent s'approcha docilement, car il ne désirait pas davantage que Jason faire profiter le monde entier et sa banlieue de leur conversation. « Le vieux devant la porte, » murmura Jason. « Il n'est pas le bienvenu chez moi, je lui ai demandé de partir, il refuse. » L'agent eut l'air étonné. Question muette, son regard passa de Jason au journaliste, puis de nouveau à Jason. « S'il veut faire un scandale, ça le regarde, » répondit Jason à mi-voix. « Je le considère comme une menace pour ma fille et je veux qu'il s'en aille. » L'agent hocha la tête et sortit un carnet à spirale. « Comment s'appelle-t-il ? » « Maxwell Black, domicilié à Atlanta. »« Lien avec vous ? » ?»« Officiellement, c'est le père de ma femme. » L'agent sursauta. Jason haussa les épaules. « Ma femme ne voulait pas de son père dans la vie de notre fille. Ce n'est pas parce que Sandy n'est pas là qu'il ne faut pas tenir compte de ses instructions. » « Est-ce qu'il a dit quelque chose, menacé votre fille, ou vous-même, d'une quelconque manière ?»«
Je considère sa présence comme une menace. »«
Vous voulez dire que vous avez une ordonnance d'éloignement ?» demanda l'agent, désorienté.
« Demain matin, à la première heure, c'est promis. »
Ce qui était un mensonge, parce que Jason aurait besoin de démontrer l'existence d'un comportement menaçant. Or, les tribunaux exigeraient sans doute une preuve plus solide que la conviction de Sandy, selon laquelle Max avait aimé son épouse désaxée davantage que sa fille persécutée.
« Je ne peux pas l'arrêter, » commença l'agent. « Je considère qu'il empiète sur ma propriété, » le coupa Jason. « Faites-le sortir de chez moi, c'est tout ce que je demande. »
L'agent ne protesta pas et, haussant les épaules comme pour dire « C'est vous qui aurez ça en première page », se dirigea vers le perron d'un pas nonchalant. Mais Max voyait que les jeux étaient faits. Il descendit les marches de lui-même, affichant toujours un sourire jovial, même s'il se déplaçait avec des mouvements saccadés, en homme qui faisait ce qu'il devait faire et non ce qu'il voulait. « Je crois que je vais aller prendre ma chambre d'hôtel maintenant », concéda-t-il, grand seigneur, avec un signe de tête vers Jason.
Les journalistes s'étaient tus. Ils semblaient faire le lien entre la présence de l'agent et les agissements de l'homme aux cheveux blancs et observaient très attentivement la scène. « Évidemment, dit Max à Jason, j'ai hâte de rendre visite à ma petite fille dès demain matin. »« N'y comptez pas, répondit Jason sur un ton égal en retournant vers la maison où Reed l'attendait. Max l'interpella. « Ah là, je ne dirais pas ça si j'étais vous. » Ce fut plus fort que lui. Jason s'arrêta, se retourna, regarda son beau-père. « Je sais quelque chose, » dit le vieil homme, à voix suffisamment basse pour que seul Jason et le policier puissent entendre. « Par exemple, je sais à quelle date vous avez rencontré ma fille et à quelle date ma petite fille est née. » « Non, c'est faux. Sandy ne vous a pas appelé à la naissance de Ray. L'état civil, Jason Jones, l'état civil. Alors vous ne croyez pas qu'il serait temps de tirer un trait sur le passé ?»« N'y comptez pas, » répéta fermement Jason, même si son cœur s'était emballé. Pour la troisième fois de la journée, il découvrait un danger là où il n'y en avait pas auparavant. Il tourna le dos à Max, gravit les marches, tourna la clé. Il ouvrit et trouva Ray au milieu du vestibule, la lèvre inférieure tremblante, les yeux noyés de larmes. Il referma la porte et elle se jeta dans ses bras. « Papa, j'ai peur, papa, j'ai peur. Chut !» Il la serra fort, il caressa les cheveux de sa fille, huma le parfum réconfortant de son shampoing antineux. « Je t'aime, » murmura-t-il sur le sommet de sa tête, tout en se demandant si Max allait la lui prendre. Jason fit des gaufres pour le dîner. Prendre un petit déjeuner le soir était un plaisir consacré par la tradition et le rituel familier qui consistait à battre la préparation pour gaufres avec l'eau apaisa Jason. Il versa la pâte sur la plaque fumante. Assis sur le bar, Rin ne quittait pas des yeux le voyant rouge de la plaque. Quand il s'éteindrait, ce serait l'heure de manger. Elle prenait sa mission de chronométreuse très au sérieux. Jason sortit le sirop, leur servit deux verres de jus d'orange, puis brouilla les deux derniers œufs du frigo pour que sa fille ait autre chose que du pain imbibé de sucre en guise de repas. Il pouvait presque entendre Sandy. « Des gaufres avec du sirop d'érable. C'est à peine mieux que des beignets. Sérieusement, Jason, rajoute au moins un œuf dur, quelque chose. » Mary n'avait jamais trop râlé. Son plat préféré était les cheveux d'ange à la sauce vodka rose. Elle en prenait à chaque fois qu'ils allaient dans les restaurants italiens du North End. « Des pâtes rosélicieuses, » disait Ray. Et partageant la même assiette, elle mangeait à grand bruit avec une jubilation de gastronome. La main de Jason fut prise d'un léger tremblement. Il broya les œufs avec tant d'énergie qu'il fit tomber un peu de jaune par terre. Il tapota à côté du bout du pied et Mr. Smith s'approcha pour faire son enquête. « C'est éteint !» carilla Ray. « Parfait, alors à table !» Il avait pris sa plus belle voix de Jim Carrey et Ray pouffa. Son rire le réconforta. Il n'avait pas toutes les réponses. Il était profondément inquiet de ce qui s'était passé aujourd'hui, sans parler de ce qui risquait d'arriver par la suite. Mais il avait ce moment. Lui avait ce moment. C'était important, les moments. Les gens ne le comprennent pas toujours, mais Jason, si. Ils s'installèrent au bar, côte à côte. Ils mangèrent les gaufres, burent leur jus. Lui promena des morceaux de brouillé dans son assiette, faisant accomplir à chacun tout un gymkhana dans le sirop d'érable avant de le fourrer enfin dans sa bouche. Jason se servit une autre gaufre, se demanda quand la police arriverait pour saisir l'ordinateur familial. Il coupa sa gaufre en bouchée, se demanda ce qu'Ethan Hastings avait appris à Sandy en matière d'informatique et pourquoi elle ne lui avait jamais fait part de ses soupçons. Il ajouta une demi-douzaine de morceaux de gaufre dans l'assiette à motif de Marguerite de Ray. Se demanda quelle serait la pire façon de perdre sa fille. À cause de la police qui la placerait en famille d'accueil quand on viendrait l'arrêter pour le meurtre de Sandy, ou à cause du père de Sandy, qui expliquerait au juge des affaires familiales que Jason Jones n'était pas le père biologique de Clarissa Jones et qu'il devait donc sortir de sa vie. Ray reposa sa fourchette. « Je n'ai plus faim, papa. » Il regarda l'assiette de sa fille. « Encore quatre bouchées de gaufres puisque tu as 4 ans. »« Non. » Elle sauta du tabouret de bar. Il la retint par le bras, désapprobateur. « Encore 4 bouchées, tu pourras sortir de table. C'est pas toi qui me commandes. » Jason, interloqué, posa sa fourchette. « Je suis ton père, alors si, c'est moi qui commande. » « Non, c'est maman. » « C'est tous les deux. Non, seulement maman. » Clarissa Jane Jones, soit tu manges 4 morceaux de gaufre, soit tu vas au coin dans les escaliers. » Rhee leva un menton rebelle. « Je veux, maman. 4 bouchées. Pourquoi tu t'es fâchée contre elle? Pourquoi tu l'as mise en colère? Remonte sur ta chaise, Rhee. » Elle frappa du pied. « Je veux, maman. Elle m'a dit qu'elle reviendrait à la maison. Elle m'a dit qu'elle ne me laisserait pas. Rhee, maman va au travail et elle revient. Elle va faire les courses et elle revient. Elle m'a dit, elle m'a promis qu'elle reviendrait toujours. » Jason sentit son cœur se serrer. Rhee avait traversé une période où les séparations étaient difficiles, où elle avait pleuré et fait une scène chaque fois que Sandy partait. Alors Sandy avait initié un petit jeu, découvert dans un livre de conseils aux parents. Elle prévenait toujours Rhee quand elle partait et la prenait dans ses bras avant de faire quoi que ce soit d'autre quand elle rentrait. « Tu vois, regarde-moi, Rhee. Je suis à la maison. Je reviens toujours à la maison. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais. » « Maman va me mettre au lit, » dit Rhee, le menton obstinément relevé. « C'est son travail. Tu vas au bureau, elle me met au lit. Va au bureau, papa. Allez, pars !»« Rhee, je ne veux plus de toi ici. Il faut que tu partes. » « Si tu pars, maman rentrera. Va au travail, il faut. Rhee, va-t'en, va-t'en. Je veux plus te voir. Tu es une crapule. »« Clarissa Jane Jones, arrête, arrête » dit-elle en se bouchant les oreilles. « Arrête de crier, je ne veux pas t'entendre crier. »« Je ne crie pas !» Mais sa voix était montée d'un ton. Sa fille continua comme si elle n'avait rien entendu. « Des pieds en colère, des pieds en colère. » J'entends tes méchants pieds dans l'escalier. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je veux maman. C'est pas juste, c'est pas juste. Je veux ma maman. » Puis sa fille s'arracha à lui et en pleurs monta l'escalier en courant. Jason la laissa faire. Il l'entendit courir dans le couloir comme une furie. Il entendit le fracas lointain de sa porte claquer. Alors il se retrouva seul au bar de la cuisine, avec une gaufre à moitié mangée et le cœur lourd de regrets. 2 jours que sa femme avait disparu et sa fille partait en vrille. Il se dit, dans un sursaut d'amère ironie, que Sandy avait intérêt à être morte, sinon il allait la tuer. La police revint à 20h45 précise. Jason, au milieu de la cuisine, était en train de contempler l'ordinateur familial, qui n'était plus l'ordinateur familial, lorsqu'ils gravirent le perron à pas lourds. Il ouvrit la porte. Le commandant Warren menait l'assaut. Elle lui demanda sous le nez, énumérant à toute allure en jargon juridique, les endroits où ils avaient le droit d'aller et les objets qu'ils avaient le droit de saisir. Comme il s'en doutait, ils allaient prendre l'ordinateur, ainsi que divers appareils électroniques, dont console de jeu, iPod, BlackBerry et Palm Pilot, la liste n'étant pas limitative. Qu'entendez-vous par console de jeu ? Se renseigna-t-il pendant que les agents en tenue et les techniciens d'identité judiciaire investissaient sa maison. Sur le trottoir d'en face, les projecteurs s'allumaient. Voyant qu'il y avait de l'action, les journalistes se préparaient pour une nouvelle série de photos. Xbox, Game Boy, PlayStation 2, Wii, etc. Rhee a une console Lipster, indiqua-t-il. À mon humble avis, le jeu Cars est mieux que la cartouche Princesse Disney, mais vos techniciens pourront évidemment en juger par eux-mêmes. Didi lui adressa un regard glacial. « Le mandat nous autorise à saisir tous les appareils électroniques que nous estimerons nécessaires, monsieur. Alors oui, nous en jugerons par nous-mêmes. » Le « monsieur » hérissa Jason, mais il ne releva pas. « Rhee est endormie, » dit-il. « Elle a eu une très longue journée, si vos hommes avaient la gentillesse de ne pas trop faire de bruit. » Il s'efforçait d'être poli, mais sa gorge s'était peut-être un peu nouée sur la faim. Lui aussi avait eu une longue journée, qui était sur le point de se muer en longue nuit. « Nous sommes des professionnels, » l'informa le commandant d'un air pincé. « Nous n'allons pas mettre votre maison à sac, nous allons très poliment la démolir, brique par brique. » Didi fit signe à un policier en tenue de s'approcher. L'agent Ansaldi avait apparemment perdu la courte paille et serait le babysitter de Jason pour la soirée. Il conduisit celui-ci dans le séjour, où il prit place dans le canapé, un peu comme la veille. Sauf qu'il n'y avait pas de Rhee cette fois-ci. Pas de petit corps chaud blotti contre lui, qui avait besoin de lui, qui lui permettrait de garder les pieds sur terre, l'empêcherait de hurler de frustration. Alors Jason ferma les yeux, mit les mains derrière sa tête et s'endormit. Lorsqu'il rouvrit les yeux, 45 minutes s'étaient écoulées et le docteur Didi Warren le regardait avec une colère froide. « Qu'est-ce que vous foutez ?»« Je me repose. »« Vous vous reposez. Comme ça. » Votre femme a disparu, donc vous faites la sieste. De toute façon, je ne risque pas de la retrouver pendant que je suis coincée dans un canapé, si ? Didi semblait écœurée. Il y a vraiment un truc qui tourne pas rond chez vous. Demandez à un agent des forces spéciales, un de ces quatre. Que fait-on quand on est mis en alerte, mais pas encore déployé ? On dort. Comme ça, le moment venu, on est prêt. C'est comme ça que vous voyez la chose. Vous êtes un soldat d'élite mis en alerte, mais pas encore déployé, demanda-t-elle d'un air sceptique. Ma famille est en crise et la seule chose que je puisse faire, c'est rester avec ma fille. En alerte, mais pas déployée. Vous pourriez la confier à son papy ? Le commandant prononça ces mots sur un ton neutre, mais avec une lueur dans le regard. Alors comme ça, elle était au courant. Bien sûr qu'elle était au courant. Les policiers n'avaient, semblait-il, rien d'autre à faire en ce moment que d'aller rapporter le moindre détail de son existence au commandant Warren. « Non merci, » dit-il. « Pourquoi pas ? Je n'aime pas les costumes en lin. » Mais Didi ne se laisserait pas décourager aussi facilement. Elle s'assit en face de lui, posa ses coudes sur ses genoux, l'air simplement curieux, pendant que de la cuisine venaient des bruits de placards, de tiroirs. Il soupçonnait que l'ordinateur était déjà parti, que l'iPod avait été saisi dans la table de chevet, peut-être avait-il aussi pris son radio-réveil. Tout contenait des puces de nos jours, or n'importe quelle puce peut être trafiquée pour y enregistrer des données. L'année précédente, un gros scandale avait vu un homme d'affaires stocker des tonnes de documents financiers compromettants dans la Xbox de son fils. Jason avait parfaitement compris les termes du mandat de perquisition, mais il s'était plu à compliquer la tâche de la jolie policière blonde. « Vous avez dit que votre femme et son père étaient brouillés ?» reprit celle-ci. « Exact. Pour quelle raison ? Ce serait plutôt à Sandy de le dire. « Mais on dirait qu'elle n'est pas disponible en ce moment, alors vous pourriez peut-être me dépanner ?» Il réfléchit. Je crois que si vous interrogiez le père, il vous répondrait que sa fille était jeune, butée et irresponsable quand elle m'a rencontrée. Vraiment. Et je crois qu'une enquêteuse aguerrie comme vous pourrait se demander ce qui s'était passé pour qu'elle soit aussi rebelle. Il la battait ? Je ne suis pas sûre. Il l'insultait ? S'étonna Didi. Je crois plutôt que la mère lui filait des dérouillés et qu'il n'a jamais levé le petit doigt pour l'en empêcher. La mère est morte, donc Sandy n'a plus à la haïr, mais le père... Elle ne lui a jamais pardonné ? Encore une fois, répondit-il en haussant les épaules, c'est à elle qu'il faudrait le demander. Pourquoi avoir renforcé vos fenêtres, monsieur Jones ? Il la regarda droit dans les yeux. Parce que le monde est peuplé de monstres et que je ne veux pas qu'ils prennent notre fille. Ça paraît excessif. Ce n'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'il n'y a pas de danger. Elle sourit un peu. Cela lui ridait le coin des yeux et trahissait son âge, mais d'un seul coup, elle parut aussi plus douce, plus abordable. Elle savait mener un interrogatoire, réalisa-t-il. Et lui était fatigué, de sorte que l'idée de tout lui dire était de plus en plus séduisante. Déposer tous ses problèmes aux pieds de la belle et brillante policière, la laisser se dépatouiller dans ce merdier. « Quand votre femme, Sandy, a-t-elle parlé avec son père pour la dernière fois ?» demanda Didi. « Le jour où elle a quitté Atlanta avec moi. »« Elle n'a jamais appelé ? Pas une fois depuis votre installation à Boston ?»« Non. »« Pas pour votre mariage ? Pas pour la naissance de votre fille ?»« Non. »« Alors que fait-il ici maintenant ?» demanda-t-elle d'un air intéressé. Il prétend qu'il a appris la disparition de Sandy par la télévision et qu'il s'est carapaté à l'aéroport. « Je vois. » Sa fille, avec laquelle il s'est brouillé, disparaît, et c'est le moment qu'il a choisi pour vous rendre visite. C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Didi pencha la tête sur le côté. « Vous mentez, monsieur Jones. Et vous savez comment je le sais ?» Il refusa de répondre. « Vous regardez en bas à gauche. Quand les gens essaient de se rappeler quelque chose, ils regardent en haut à gauche. Mais quand ils fuient la vérité, ils regardent en bas à gauche. Un petit détail intéressant qu'on nous enseigne à l'école de police. » Et il vous a fallu combien de semaines pour décrocher votre diplôme ? Les lèvres de Didi esquissèrent à nouveau ce demi-sourire. D'après ce qu'a compris l'agent Hawkes, continua-t-elle, Maxwell Black entretient certaines idées sur sa petite fille, notamment celle que vous n'êtes pas le vrai père. Jason ne répondit pas. Il en avait envie. Envie de crier que lui était évidemment sa fille, qu'elle le serait toujours et qu'il ne pourrait jamais en être autrement. Mais ce cher commandant n'avait pas posé de questions, et la règle numéro un en matière d'interrogatoire était de ne jamais répondre aux questions sans nécessité. « À la date indiquée sur son acte de naissance, répondit-il sèchement. « Que vous avez déjà lu, je suis sûre. » Elle sourit à nouveau. « 20 juin 2004, il me semble. » Il ne dit rien. « Et quand avez-vous rencontré Sandy ?»« Au printemps 2003, répondit-il en prenant garde de la regarder en face et de ne baisser les yeux en aucun cas. » Nouvelle moue sceptique de Didi. « Sandy n'aurait eu que 17 ans ?»« Je n'ai jamais dit que son père n'avait aucune raison de me détester. » Dans ce cas, pourquoi Maxwell croit-il que vous n'êtes pas le père de lui ? Faudrait lui demander. Faites-moi plaisir. Vous le connaissez manifestement mieux que moi. On ne peut pas dire que je le connaisse. Sandy et moi ne nous sommes pas exactement présentés nos parents avant de nous fréquenter. Vous n'aviez jamais rencontré le père de Sandy avant aujourd'hui ? Seulement en passant. Elle l'observa. Et de votre côté, je n'ai pas de famille. Vous êtes né par l'opération du Saint-Esprit ? On voit des miracles tous les jours. Elle leva les yeux au ciel. D'accord, le père de Sandy alors, Papy Black. Vous lui avez enlevé sa fille, vous vous êtes installé dans un état yankee loin de toute civilisation et vous ne l'avez jamais informé de la naissance de sa petite fille. Jason haussa les épaules. Je crois que le juge Black a de bonnes raisons de vous en vouloir, avouez à Sandy. C'est peut-être pour ça qu'il est revenu maintenant. Sa fille a disparu et son gendre est le principal suspect. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il ne s'approchera pas de lui. Vous avez une ordonnance d'éloignement ? Il ne s'approchera pas de lui. Et s'il réclame un test de paternité ? Impossible, vous avez lu l'acte de naissance. Vous êtes son père au regard de l'état civil, donc il n'y a pas lieu de faire un test. La défense Howard K. Stern ? Nouveau haussement d'épaule. Didi sourit. Dans mon souvenir, c'est l'autre qui a gagné. Demandez-moi qui a renforcé les fenêtres. Quoi ? Demandez-moi qui a renforcé les fenêtres. Vous tournez autour du pot. Vous revenez tout le temps sur cette question comme si ça vous apprenait quelque chose sur moi. D'accord. Qui a renforcé les fenêtres ? Sandy. Le lendemain de notre arrivée. Elle était enceinte de 9 mois. Nous avions toute une maison à installer et son premier mouvement a été de consolider toutes les fenêtres. Didier réfléchit. Après toutes ces années, elle se barricade encore contre son père ? Je ne vous le fais pas dire. Didier se leva finalement de sa chaise. Eh bien, ça n'a pas marché, parce que papa est de retour et qu'il a le bras plus long que vous ne croyez. Comment ça ? Il semblerait qu'il ait fait ses études avec un des juges de notre cour fédérale. Elle montra rapidement son formulaire. Qui a signé notre mandat, d'après vous ? Jason réussit à ne pas piper mot, mais cela n'avait probablement aucune importance, car sa soudaine pâleur le trahissait. Vous ne savez toujours pas où se trouve votre femme ? Demanda Didi sur le pas de la porte. Il secoua la tête. Dommage, ce serait vraiment mieux pour tout le monde si on la retrouvait. Surtout vu son état, tout ça. Son état ? Didi eut à nouveau l'air surprise. Cette fois-ci, impossible de se méprendre sur la lueur de triomphe dans son regard. Encore une chose qu'on vous apprend à l'école de police. Comment récupérer les poubelles des gens et comment lire un test de grossesse. Quoi vous voulez dire ? Parfaitement, Jason Jones. Votre femme est enceinte.